Papa, et non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère. C'est devenu ultra simple, notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme de site web tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canons dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos propres campagnes email. Vous pouvez même vendre vos propres formations en ligne. Donc si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. N'hésitez pas et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello, ici Pauline Léniaud et vous êtes sur Le Gratin. Avec Le Gratin, je vous embarque toutes les semaines à la découverte de personnalités toutes plus incroyables les unes que les autres, qu'ils soient chercheurs, entrepreneurs, athlètes, artistes, amiraux, scientifiques et j'en passe. Ils ont tous un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le gratin Raaf Afrouche. Si vous voulez poursuivre la conversation avec elle, n'hésitez pas à consulter son site internet raafafrouche.com et pourquoi pas aussi à la contacter directement sur LinkedIn ou Twitter où elle vous répondra, mais pas tout de suite, comme elle l'expliquera dans l'épisode. Raaf est consultante en stratégie, anthropologue du numérique et auteur de plusieurs ouvrages à succès. Son dernier livre, que je vous invite vraiment à lire, Overbooké, porte sur le culte de la productivité et en quoi cette croyance que travailler tout le temps a de nombreux effets pervers, dont une baisse de créativité notamment, et bien sûr le fameux burn-out. Je trouve personnellement que le travail de Raaf est passionnant parce qu'il est à l'intersection de l'étude des technologies, de l'étude de nos comportements actuels, mais aussi de l'anthropologie. Autrement dit, comprendre en quoi la culture contemporaine, du web, de la productivité, j'en passe, impacte durablement l'être humain en tant qu'espèce. Raaf est également directrice exécutive du Red Thread Institute of Digital Culture et enseigne sur l'innovation à Sciences Po Paris. Durant cet épisode, on a discuté de plein de thèmes très variés, d'organisation, de l'importance de faire des pauses, de time management, de créativité, d'exemplarité, d'intentionnalité, un mot pas facile à dire, notamment pour Raaf, et je la remercie encore une fois d'avoir fait l'effort de nous parler en français. On a parlé aussi de burn-out ou encore de l'importance de se poser les bonnes questions. J'ai pour ma part passé un excellent moment tant Raaf parle avec passion de sujets qui l'animent et qui nous impactent tous au quotidien. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Raaf Afrouche. Bonjour Raaf, bienvenue sur Le Gratin.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir. Écoutez, ça fait longtemps en plus qu'on a planifié cette interview et j'ai réfléchi pour cette interview à comment j'allais commencer parce qu'il y a plein de sujets dans votre parcours, dans tout ce que vous avez étudié qui m'intéresse énormément. Je me suis dit ceci dit que pour commencer, peut-être le plus simple, ça serait de commencer par parler de votre dernier livre qui est sorti il y a quand même assez peu de temps encore au moment où on se parle. Et donc, je voulais simplement vous poser la question, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre et peut-être quel était finalement le message principal que vous avez voulu transmettre au travers de ces pages?
Ben, premièrement, merci beaucoup de m'accueillir sur Le Gratin. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous. L'idée de Overbooké est développée par accident. En fait, c'était qu'il y avait plusieurs années que j'ai eu un épisode de surépuisement, de burnout, qui était vraiment terrifiant, vraiment terrible. J'ai perdu mes cheveux, j'étais pas capable de travailler en fait pendant plusieurs mois et ça m'a vraiment choquée parce que pour toute ma vie j'étais vraiment je croyais assez fortement dans la productivité, dans tout ce comment gérer le temps, le life hack, tout ça, et ça m'a étonnée que cette crise de santé m'a arrivée. Et pendant que j'étais en train de guérir très lentement, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi est-ce que ça m'a arrivé? Pourquoi est-ce que j'ai pris des décisions de comment j'ai géré mon temps? Pourquoi est-ce que je me suis pas laissé le temps de me reposer? Des choses qui étaient assez logiques. C'est pas une idée qui est tellement bizarre de reposer, de bien dormir, d'être tranquille. Oui. Mais malgré le fait que je savais comment faire ces choses-là, j'étais pas capable de les faire. Et en fait, en me posant ces questions, je me suis lancée par hasard dans un projet de recherche qui m'a pris à peu près 3 ans où j'ai commencé à vraiment découvrir les origines de ces idées, les origines de ces systèmes de croyances. Et en fait, la réponse était que notre société a créé un système de croyances, vraiment c'est presque une religion de comment on pense de succès, de comment on mérite de réussir, de comment, si on est une bonne personne, si on a une bonne âme, si nous sommes des bonnes personnes, qui étaient toutes liées à cette idée du travail. Donc si je travaille pas super fort, si je ne travaille pas sans arrêt, je mérite pas mon succès. Et ouais. En fait, j'ai remarqué qu'il y avait une contradiction entre les modèles de productivité qu'on utilise, qu'on dit aux gens d'utiliser pour gérer leur temps, et les modèles de créativité de ce que nos cerveaux, nos corps, nos esprits ont besoin pour bien travailler. Et cette contradiction est liée à ce système de croyances. Et j'ai dit, on va jamais sortir de ça si on commence pas à discuter ces croyances, notre relation avec le travail. Donc, Overbooker était une essai de ma part d'en sortir de cette culte qui nous a fait croire que si on fait pas ces choses-là, on va pas réussir. Et c'était vraiment pour moi-même et pour les autres une manière de dire, si on parle pas de ces croyances qui sont invisibles, c'est ça, on les a tous, on les porte tous et on s'y questionne même pas. On se demande même pas des questions. Quand est-ce que j'ai commencé à croire dans l'idée du travail très fort? Où est-ce que j'ai commencé de mériter mon succès? Plein de questions, on se demande même pas. Donc, le message de Overbooker, c'est que c'est possible de réussir sans sacrifier la santé, sans sacrifier nos relations, sans sacrifier notre santé mentale. Mais on doit commencer à avoir des discussions qui sont assez difficiles pour plusieurs de nous parce que ça nous force de séparer notre identité de travail avec notre valeur en soi.
C'est vraiment très intéressant et je suis sûre qu'il y a tellement de personnes qui doivent se reconnaître dans votre parcours et dans cet épisode de vie qui a dû être terrible. Peut-être pour revenir dessus, moi je trouve que très souvent on est persuadé que le burn-out arrive vraiment quand les personnes travaillent énormément. Et en fait, il y a plein d'études qui montrent que finalement, c'est aussi énormément une charge mentale, donc c'est beaucoup dans la tête, et qu'on n'est pas obligé de travailler 80 heures par semaine pour arriver au burn-out. Ma question pour vous, du coup, Raaf, c'est est-ce que vous pourriez nous dire, vous, peut-être, maintenant que vous avez ce recul, qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque, vous avez eu ce passage à vide?
En fait, c'est un intéressant mélange de plusieurs choses. Et avec Overbooker, ce que je voulais faire, c'est montrer qu'il n'y a pas une cause. S'il y avait juste, et vous devez me corriger avec mon français, je fais l'effort, mais peut-être c'est une cause. OK. mais il n'y a pas juste une cause, parce que si c'était une cause, ça serait assez simple de le corriger. Mais en fait, il y a plusieurs causes. Il y a notre histoire, il y a notre technologie, il y a les histoires qu'on raconte dans les médias, il y a nos attentes et nos enfances, de comment nos parents et nos professeurs nous ont parlé de tout ça. Donc en fait, c'est une mélange de beaucoup de je les appelle les forces. Donc il y a trois forces qui sont mélangées ensemble. Et pour moi, c'était cette idée, par exemple, que la technologie nous a donné une attente que tout le monde doit toujours être accessible. Que moi, si je vous envoie un message, que vous me doyez une réponse tout de suite. Que si vous me répondez pas tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas et que c'est pas bien. Donc, premièrement, la créativité, nous avons besoin du temps libre, du temps sans interruption pour pouvoir bien travailler, bien réfléchir. Donc, la technologie. La deuxième chose, c'est cette idée de... ça a commencé aux États-Unis, le rêve américain, mais il y a une version qui vraiment est présente dans tous les pays. Cette idée que si je veux réussir, la seule chose qui va m'aider à réussir, c'est l'intensité de mon travail. Donc, si je travaille très fort, je vais réussir. Et si je ne réussis pas, ça veut dire que c'est parce que je travaille pas assez fort. Et ça, cette idée est tellement bizarre parce que quand on prend du recul, on voit qu'il y a plein des autres facteurs, des autres choses qui nous évitent de travailler très fort. Oui, travailler fort est important, ça c'est sûr. Mais le pays où on est né, les conditions économiques de notre milieu, notre réseau, notre accès à des institutions d'éducation, les systèmes de santé, tout ça, ben tout ça, il joue un assez grand rôle dans notre succès. On peut pas dire à une personne qui travaille 3 différents jobs juste pour pouvoir payer le loyer qu'il travaille pas assez fort. Mais on a quand même, malgré cette réalité, on a cette idée que c'est à nous de réussir, et la seule manière de réussir, c'est de continuer de travailler. Et finalement, il y a cette histoire qu'on a avec les systèmes de productivité. Ce sont des systèmes que nous avons pris de la révolution industrielle, qui disent on doit travailler sans arrêt. Donc on prend pas de pause, on prend pas de vacances, on est là, on travaille, on va au fond. Mais cet système de productivité n'était pas fait pour le travail créatif, le travail complexe, les tâches mentales que nous faisons tous dans notre journée. Quand moi je dois résoudre des problèmes, travailler avec des clients, collaborer avec des collègues, apprendre quelque chose, faire la recherche, tout ça, c'est pas le même type de travail que nous avons fait pendant la révolution industrielle, mais on a pris les systèmes des usines dans les années 1850, et on dit, ben voilà comment vous devez travailler maintenant en 2021. Et ça, c'est n'importe quoi, ils n'ont rien à faire avec un de l'autre, et on est même lié à cette idée que si on travaille sans arrêt, on va réussir. Donc tout ça, moi, je me suis jamais demandé, quand j'avais 25 ans, quand j'ai commencé mon travail, je me suis jamais demandé, ben, où sont les origines des systèmes de travail qu'on utilise dans les sociétés? C'est où est-ce que moi j'ai adopté cette idée du rêve américain? On est juste, on les absorbait. Et chaque fois que j'étais sur Instagram, que je regardais la télé, que je lisais des journaux, qu'est-ce que j'ai retrouvé? Voilà la routine du matin du succès de monsieur, le patron du groupe de Amazon qui se lève à 4 heures le matin et là il travaille pendant 12 heures et regarde qu'il a réussi. Et voilà l'histoire de madame qui se lève à 3 heures qui fait, et tout ça. Donc même dans le média, il y a cette histoire de ces héros du travail, et on dit si vous voulez être comme eux, vous aussi vous devez vous lever à 5 heures le matin. Donc on se pose jamais des questions, est-ce que je crois dans ces histoires? Est-ce que ces histoires sont vraies? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un rêve qu'on était vendu dans la poursuite du succès?
Vous, depuis que vous avez vécu cette période et que vous avez écrit le livre, est-ce que vous avez vu votre vie changer? Est-ce que vous avez pris de nouvelles habitudes? Parce que maintenant que ces croyances, justement, vous en avez conscience, comment est-ce que physiquement, dans votre vie quotidienne, est-ce que les choses ont changé?
Ah ben c'est vraiment drôle parce que par exemple, moi je dis jamais je suis trop occupée, que je suis busy, je suis overbookée. Non, j'ai plein de temps. Et c'est vraiment drôle parce que quand vous dites aux gens que vous avez beaucoup de temps, ça leur choque un tout petit peu. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a là?
C'est presque la honte, vous savez, il y a presque un peu une...
Mais c'est ça.
On n'assume pas.
C'est ça, parce que d'habitude, on dit, non, j'ai plein de choses, mon agenda est tellement chargé, j'en peux pas, j'arrête pas de bosser. Mais non, moi, j'ai mis en priorité le temps libre. Donc pour moi, c'est ce que je fais, c'est que je gère très strictement mon agenda. J'ai des journées, j'ai un ou deux jours, ça change chaque semaine, où je prends pas de rendez-vous, j'ai pas des zooms, j'ai pas des appels, j'ai pas de rendez-vous, pour me donner l'opportunité de pouvoir me concentrer sur le travail que je dois faire. Pour moi, je suis une chercheuse, je dois lire beaucoup, faire beaucoup de recherches, je dois écrire, donc plein des tâches où j'ai besoin d'une période sans être interrompue. Et là, je commence, ce que moi je fais maintenant, c'est que je prends des périodes de 2 heures sur l'agenda où je travaille pendant environ, je sais pas, 45 minutes à une heure et quart, et puis je prends une pause. Et pendant ces pauses, je me promène, je promène mon chien, je vais dans le jardin, je me pose devant le canapé, je suis tranquille pendant une vingtaine à trentaine à 2 minutes. Et ça, c'était le plus grand changement, c'était cette idée que de prendre des pauses stratégiques est une partie du haute performance. Donc moi, je prends des pauses assez souvent dans ma journée, et honnêtement, des fois 6 heures, 8 heures, j'arrête. Parce que si je suis ces cycles de mon propre productivité, j'arrive à compléter des choses beaucoup plus rapidement que si j'étais devant mon ordinateur pendant 10 heures. Donc pour moi, c'est vraiment gérer mon temps, gérer mon énergie. Je sais par exemple que moi, mon énergie créative est beaucoup plus puissante, beaucoup plus active dans l'après-midi ou plutôt le soir au lieu du matin. Donc le matin, j'ai fait mon email, j'ai fait des autres tâches qui sont pas très importantes. Et dans l'après-midi, je suis vraiment concentrée sur les tâches stratégiques sans interruption. Et j'ai des amis, par exemple, qui sont l'opposé. J'ai une copine qui se lève à 6 heures le matin. Elle est vraiment à son max créative à 7 heures. Donc, pour elle, elle fait tout son travail qui est très dur le matin. Et puis, l'après-midi, elle fait ses emails. Donc, moi, je suis là à l'envers. Donc, pour moi, je gère mon temps et je suis sûre d'inclure des pauses régulièrement. Des pauses. Et les pauses, ça veut pas dire que je prends mon café, je suis sur mon portable en train de regarder sur Instagram. Hein, ça, c'est pas une pause, mais une vraie pause mentale où je me promène, je fais du sport, je sors avec mon chien, je vais dans le jardin, je fais quelque chose où j'ai pas des stimulations mentales du portable ou de la technologie. Donc ça m'a vraiment changé la vie.
Oui, vous changez. J'ai l'impression aussi, c'est hyper intéressant que vous changez vous sortez en fait votre esprit du contexte dans lequel il était. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes en train de faire une tâche, par exemple, qui nécessite beaucoup de réflexion. Et en fait, il faut qu'il y ait une rupture dans la pause. C'est-à-dire qu'il faut pas effectivement juste dire, ok, je m'assois, j'attends, mais faire quelque chose peut-être plus physique pour vraiment en fait s'aérer quoi, l'esprit.
C'est ça, le cycle de notre créativité, ça augmente et ça baisse. Donc on peut pas travailler sur une tâche intensive et complexe pendant 5 heures sans arrêt. Ça, nos cerveaux au niveau biologique, ça marche pas comme ça. Donc si on connaît notre propre cycle, on peut le retrouver juste en faisant des essais, on peut dire ok, pour moi j'ai besoin, après une heure de travail intense, j'ai besoin d'une pause de 30 minutes pour récupérer. Donc, si je fais ça, donc j'inclus la pause comme une partie du cycle. On peut pas juste dire, ok, je vais travailler pour 2 heures sur cette tâche, après je prends 5 minutes, je vais sur Instagram, je fais des mails, je recommence la nouvelle tâche. Ça marche pas comme ça. Et c'est ça, c'est les systèmes de productivité qui nous disent, ah non, Pauline, vous devez vous faire des tâches sans arrêt pour être productive pendant la journée. Mais vous allez être plus productive si vous prenez une pause de 30 minutes où vous faites rien. Ça va vous augmenter l'énergie, votre capacité de vous concentrer. Le travail que vous allez produire va être d'une plus haute qualité. Ça, c'est la recherche, hein, c'est la recherche scientifique. C'est pas une rêve, c'est vraiment des choses qu'on montre. Mais c'est vraiment bizarre parce que les gens sont très résistantes de cette idée de la pause. Et en plus, comme on est dépendant sur la technologie, sur la stimulation, on se donne jamais l'opportunité d'être sans stimulation.
Complètement. C'est hyper précieux comme conseil. Je pense qu'il y a beaucoup de managers qui doivent se dire, c'est vrai que finalement je ne prends aucune pause dans la journée, et moi-même je me dis je prends quasiment aucune pause. C'est assez terrible. Et alors du coup j'ai une question pour vous vraiment qui m'intéresse à titre personnel, c'est est-ce que ça vaut majoritairement pour du deep work, c'est-à-dire des réflexions de fond sur lesquelles on a besoin d'être très concentré, de la même manière que ça vaut par exemple sur un autre type de travail qui est le travail en équipe, où par exemple moi je vous dis, ma journée, c'est j'enchaîne, je sais pas, 10 rendez-vous ou 15 rendez-vous back to back avec tous mes collaborateurs ou avec différentes personnes, et où effectivement en général il y a assez peu de pauses entre, mais où j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe et j'aimerais votre avis là-dessus, qu'il y a moins besoin de faire ces pauses entre des moments qui sont presque un peu plus sociaux, si vous voulez.
Non, je pense que les pauses sont même plus importantes quand on travaille en équipe, quand on est en train de collaborer, quand on est en train de vraiment écouter une autre personne, réfléchir de ce qu'ils disent, réfléchir de notre propre réponse, essayer de résoudre ou de trouver une solution, d'avancer sur un projet. Ça prend, ça coûte au niveau de notre énergie, ça a un prix qui est assez haut parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire sans réfléchir. Par exemple, si moi j'ai des emails, je peux répondre à des emails, c'est pas un investissement d'énergie qui est assez haut. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il n'y a aucune raison pourquoi pas on peut créer un design des rendez-vous avec des collaborateurs qui inclut aussi des pauses. Mais on se réfléchit jamais au niveau du design. Par exemple, j'ai des clients, des grandes entreprises avec qui je travaille, où ils ont commencé à dire que nos rendez-vous, pourquoi, par exemple, pourquoi est-ce que quand on va sur votre agenda, si moi je vais prendre un rendez-vous avec vous, que le default, le standard, je ne sais pas, le...
Oui. Défaut.
Le défaut. C'est toujours les mots qui sont exactement le même en français.
Mais vous parlez incroyablement, défaut, voilà. Vous parlez très,
donc,
très bien.
Pourquoi est-ce que les défauts, c'est 60 minutes?
Ouais.
Donc, si le pourquoi, c'est juste parce que, au niveau technique, il y avait une personne à un moment qui a dit, on va faire le défaut d'être 60 minutes. Mais pourquoi pas le défaut d'être 40 minutes, par exemple, pour donner à les personnes une pause de 20 à 15 minutes entre les réunions. Donc, même si vous avez des back-to-back, qui est normal pour les gens dans des grandes entreprises, il y a aucune raison où on peut pas faire, au niveau du design, une pause de 20 minutes. Et je ne sais pas, moi, j'ai cette expérience, je vais vous demander de me répondre à cette question, que est-ce que vous trouvez qu'il y aura une énorme différence si votre réunion était 45 minutes au lieu de 60 minutes?
Alors, absolument pas. Et même pour tout vous dire, j'ai un peu fait ce que vous avez dit parce que j'ai justement décidé il y a maintenant, je crois, peut-être 6 mois, que les réunions dans mon entreprise allaient être de 45 minutes, ou en tout cas qu'il faut annoncer en avance le temps et ne pas dépasser ce temps, et que ça soit plutôt 45 minutes et pas une heure, justement pour qu'elle soit plus courte, parce que la réalité, c'est qu'on se rend compte en plus qu'une réunion, c'est aussi beaucoup de temps, et c'est notamment le temps de plusieurs personnes. Donc quand on accumule le nombre d'heures finalement passées pour toutes ces personnes, c'est énorme, et donc raccourcir ces temps de réunion est nécessaire et permet justement de faire autre chose. Après, le problème, c'est que même si je suis passée à 45 minutes, j'ai pas mis les pauses.
Mais c'est ça. Mais c'est ça. Et en fait, ça, c'est au niveau du stratégie dans les entreprises et pour les entrepreneurs, pour les travailleurs, ouais. C'est que c'est nous, on doit mettre, les pauses sont font partie du cycle de la productivité. Donc, prendre une pause, ça veut pas dire que vous arrêtez d'être productif, que vous arrêtez de travailler, que vous arrêtez de poursuivre vos buts. En fait, ça veut dire la pause fait partie pour que vous pouvez atteindre ce niveau de performance qui vous permet de faire le travail à votre meilleur niveau de qualité. Et des fois, on parle même pas des réunions sont comme une partie d'un écosystème dans une entreprise. Donc vous disiez, ok, ben on va faire un rendez-vous mardi, votre collègue dit on va faire des rendez-vous vendredi, et en fait dans des équipes, on se rend jamais compte qu'on doit prendre la somme de toutes les réunions pour dire comment est-ce que ça impacte la capacité des gens pour pouvoir se concentrer sur des tâches complexes. Dans mon recherche, qu'est-ce qu'on commence de voir, c'est par exemple des entreprises qui disent 2 jours ou 1 jour par semaine, il n'y a aucune réunion. On fait pas des réunions les vendredis, on fait pas les réunions des mercredis, on donne les gens du temps. Ou on se dise, par exemple, si c'est pas possible, qu'on veut pas avoir des rendez-vous après 15 heures, ou je sais pas, ils font des jours où ils choisissent de mettre des réunions en place, des rendez-vous en place. Parce qu'il n'y a aucune raison pourquoi pas, on peut pas contrôler notre agenda dans une manière différente. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous travaillez en entreprise, vous regardez, vous voyez, l'agenda de votre collègue est vide, on va prendre 1 heure ici, 1 heure par là, je vais inviter 15 personnes. Mais si, dans une entreprise, par exemple, les autres choses que les gens font, c'est qu'ils bloquent du temps où vous dites, Pauline, dites les matins entre 9h et 13h, je prends pas de réunion. Les temps, c'est pas disponible. Donc, on doit commencer à avoir une stratégie de time management, gérer notre temps et notre énergie avec les équipes. Et je vous dis ça parce que la réponse que j'ai toujours, quand je dis aux gens, ils doivent mieux gérer leur planning. Mon patron va jamais dire oui, mon équipe va jamais dire oui. Mais en fait, quand je travaille avec les clients au niveau de consulting, j'ai jamais eu une équipe où quand on vient tout ensemble pour discuter, est-ce qu'on peut mettre une stratégie en place pour améliorer notre qualité de nos réunions? Dans les 6 ans que j'ai fait ce travail, j'ai jamais eu un patron ou une équipe qui dit non, on n'est pas intéressé d'avoir cette discussion. Donc, ça veut pas dire que on va venir et on va faire, chaque entreprise doit avoir 2 jours sans rendez-vous. Non. On doit juste avoir une réunion, mais on doit discuter. C'est quoi la stratégie pour nous? Peut-être pour vous, si vous travaillez avec des collaborateurs qui sont dans des différentes time zones ou quelque chose comme ça, vous devez vous débrouiller un peu différemment. Mais il n'y a aucune raison où on ne peut pas dire, voilà une stratégie pour que tout le monde a au moins quelques heures chaque semaine pour prendre des pauses, pour prendre du recul, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir travailler sans être interrompu.
Bien sûr. Et vous qui avez justement cette expérience en plus de conseils, donc pas uniquement de recherche, mais vraiment de conseiller des très gros groupes, hein, parce que si je me trompe pas, vous avez travaillé avec Facebook, Google, etc. Pour vous, cette réflexion, elle doit être initiée par les dirigeants d'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi ce côté rôle modèle de dire, bah voilà, on va mettre en place cette réflexion sur le time management, on va s'intéresser au sujet. Ensuite, ça peut être fait de manière collaborative, ou vous pensez que finalement, ça peut venir aussi de plus bas dans l'échelle. Mais est-ce que le dirigeant a un rôle finalement d'instaurer aussi cette nouvelle culture?
C'est les deux. Le dirigeant a un rôle. Et qu'est-ce qu'on est en train de retrouver maintenant, de découvrir maintenant, c'est que en 2019 déjà, le World Health Organization, ils ont déclaré que le surépuisement, le surtravail je sais pas comment dire ça en français, a workplace hazard.
Ah ouais, un danger professionnel.
Et que ça prend place dans toutes les industries, dans tous les pays. Donc ça commence à être un problème qui a un prix économique qui
important,
coûte quand les gens prennent, donc les gens qui ont le burn-out comme moi, c'est pas juste qu'on dit qu'on est fatigué, hein, qu'on est un tout petit peu fatigué, ça c'est pas le burn-out. Le burn-out est vraiment une condition de santé ou qui a beaucoup de problèmes. On peut devenir déprimé, on peut développer des problèmes de santé physique, on peut avoir des problèmes du cœur, des problèmes, mais c'est vraiment plein de choses. Et quand les gens ont besoin de prendre des jours de santé, de quand ils sont malades, quand ils sont pas capables de travailler, tout ça, ça aussi a un coût économique. Et après ça, je suis aussi rendu compte que maintenant, comme on a dans un espace technologique, notre réalité de croissance est assez intense, que les entreprises, ils ont besoin des gens qui peuvent être innovatifs, créatifs, mais très rapidement, sans arrêt tout le temps. Et c'est les entreprises qui viennent vers moi qui disent tout d'un coup, on se rend compte que notre gens qui sont les plus performantes, ils sont en train de partir, ils sont en train de souffrir de burn-out, ils sont en train d'avoir des problèmes. Donc, même si le dirigeant, au premier moment, ne croit pas dans cette culture de changer la culture de travail, ils ont commencé à se rendre compte que ça devient un besoin assez essentiel de gérer parce qu'il y a un problème. Donc ça, je vois ça beaucoup, que les gens viennent et disent « Notre collaborateur sont en train de souffrir, ils sont en train de partir et on ne sait pas pourquoi ». Et là, c'est toujours, on sait pas pourquoi, parce que, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de partir, même quand nous avons des journées de repos, des journées de vacances, même quand nous avons des politiques de work-life balance, de cet équilibre de travail de la vie, quand on regarde le data, quand on commence à se rendre compte, en fait, que, même quand ils sont en vacances, ils sont en train de répondre à des emails. Même quand ils sont supposés de pas travailler, ils sont en train de travailler, ils sont connectés. Donc, il y a un problème au niveau de la culture du travail de cette entreprise. Donc, de ce niveau-là, je vois beaucoup de dirigeantes qui disent, même au niveau de la performance de l'entreprise, il y a un souci. On doit commencer à en discuter parce que ça ne va pas. La deuxième chose, c'est quand vous avez les travailleurs qui disent les contextes, les conditions de travail sont pas bons. Et là, ils sont motivés de dire à leur manager, on doit en discuter parce que là, j'en peux plus, je suis en train de souffrir. Donc, ça vient des deux côtés, mais sans le soutien des dirigeantes, c'est vraiment dur. Parce que si le patron du groupe ne Bien croit sûr. Pas, et si lui ou elle sont en train d'envoyer des messages, tout ça, même si l'entreprise a des politiques en place pour protéger les gens, les travailleurs, les collaborateurs vont pas suivre les politiques. Et j'avais fait une interview avec une dame qui travaille dans une agence de médias à Paris. Et elle dit, vous savez, à Paris, nous, en France, on a les 25 journées de congé, machin. Mais elle dit, c'était jamais écrite, mais il y avait une pression qui était jamais exprimée, mais qui était ressentie, que même quand je suis en congé, même quand je suis en vacances, je dois toujours répondre à des messages des clients. Je dois toujours être connectée au cas où. Comment est-ce qu'on peut vraiment se reposer et prendre un recul et vraiment guérir notre énergie s'il y a une partie de nos cerveaux qui est toujours connectée au bureau? Et ça, c'est en Europe, hein, ça, c'est en France où on a tous ces bénéfices de travail équilibré.
Mais ça, je pense que vous pointez du doigt un sujet qui, moi, me passionne. C'est l'importance, en fait, de l'exemplarité. Et que même si on dit quelque chose, si on ne le fait pas derrière, bah, en fait, ça ne sert à rien. Et je vois ça beaucoup dans la culture d'entreprise, d'entreprises qui ont inscrit des valeurs X ou Y. Mais si jamais, notamment les dirigeants, mais pas que, au niveau de l'entreprise, en fait, les gens ne le montrent pas vraiment avec des preuves tangibles et réelles, bah, malheureusement, ça reste des mots qui sont écrits sur un papier, quoi.
Mais c'est ça. Et en fait, c'est que les collaborateurs vont suivre les actions du patron ou du manager, et peu importe ce qui est écrit dans le sur le site web, la charte, la vision, la mission, tout ça, ben si votre patron va vous envoyer un email dimanche soir, vous allez le répondre, hein. Ça c'est clair.
C'est sûr. Raph, j'aimerais parler aussi de créativité. Parce que dans Overbooké, vous en parlez beaucoup, et notamment le lien entre la productivité et la créativité. Vous en avez parlé un petit peu là dans le cadre de ce que vous disiez précédemment. Mais ma question, c'est donc, vous dites que la créativité nécessite du temps libre. Est-ce que ça, vous pourriez m'expliquer en fait en quoi justement cela permet de susciter la créativité, d'arrêter de se concentrer en permanence sur plein de tâches, répondre à Instagram, etc. Mais se dire, non, je vais allouer du temps pour la créativité et pour l'innovation.
Oui, ben quand on parle de la processus neurologique de laquelle on réfléchit, qu'est-ce qu'on trouve, c'est en fait il y a deux parties du cerveau, la partie consciente conscious et la partie unconscious, je ne sais pas, subconscious,
inconsciente.
Et en fait, notre créativité, ça vient de la partie inconsciente. Donc, quand on est en train de se concentrer sur une tâche et on est en train de résoudre des problèmes, de travailler, c'est une partie spécifique de notre cerveau qui est en train de travailler. Et donc, je vais vous demander une question pour prouver ce point. Vous, quand vous avez des idées et quand vous êtes inspiré, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Où est-ce que vous recevez vos idées?
Majoritairement, soit quand je suis en train de discuter avec des gens de manière assez animée, ou très souvent le sport, quand je suis en train de faire de la course à pied.
C'est ça. Et pour la majorité des personnes, ils reçoivent leurs inspirations quand ils sont en train de se promener, quand ils sont en train de faire la vaisselle, quand ils sont en train de prendre une douche. Et c'est parce que c'est là qu'on n'est pas en train de se concentrer sur la tâche devant nous. C'est là où notre cerveau commence à prendre un recul et commence à dire, ah, OK, je suis en train de réfléchir sur un problème. Qu'est-ce que j'ai vu dans la journée qui pourrait m'aider? Qu'est-ce que je peux essayer? Ben ça, on peut pas avoir cet espace mental pour réfléchir s'il y a toujours quelque chose qui est en train de voler notre attention. Ça veut dire que si je suis en train de regarder sur Instagram tout le temps, je suis en train de regarder des vidéos, je suis en train d'écouter d'un podcast, je suis en train de faire choses, tout ça sont des activités on peut les faire, hein, ils sont pas mal de les faire, mais quand est-ce qu'on va prendre du temps juste pour rêver un peu, juste pour dire, OK, ben, j'ai lu plein de choses. Donc, si vous êtes comme moi, vous êtes en train de vous lisez beaucoup de choses, moi, j'adore les podcasts, j'adore lire les livres, les articles, je suis toujours en train de consommer les informations.
Oui.
Mais ça vaut rien si je me permets pas le temps de faire des connexions entre toutes ces idées que je suis en train de consommer. Donc, pourquoi est-ce que je vais lire 15 livres dans un an ou une centaine d'articles ou entendre une trentaine des épisodes de podcast si je me permets pas le temps de dire, OK, j'ai appris quelque chose d'intéressant. Où est-ce que je peux appliquer ça dans ma vie? Comment est-ce que je peux utiliser cette idée? Est-ce que j'ai vu quelque chose peut-être de ce livre et de ce podcast qui va vraiment m'aider à créer la solution à ce problème que j'étais en train d'essayer de résoudre? Ben, mais non, on donne pas le temps. C'est toujours bruyante. On a du pollution bruyante digitale sans arrêt. Et j'ai des amis qui me disent, ah, même quand je fais du sport, je suis en train d'entendre des podcasts. Et je dis, quand dans votre journée, est-ce que vous donnez le temps de juste vous entendre, d'entendre vos pensées, vos réflexions, vos idées? Et c'est quand, peut-être qu'ils sont dans la douche, peut-être quand ils sont en train de marcher, peut-être quand ils sont dans le métro. Mais si on se donne pas ce temps, c'est une partie essentielle de la créativité. Et c'est pourquoi, par exemple, maintenant, on dit que c'est important de to daydream, de réfléchir, de se laisser
Vagabonder l'esprit, ouais.
C'est ça. Ah, j'adore cette expression de vagabonder l'esprit. Oh, je trouve ça super cool, c'est charmant. Mais c'est ça parce que ça nous permet à essayer des choses mentalement, à faire des connexions, à faire plein de choses. Donc, vous savez, peut-être quand vous faites cette activité ou vous pratiquez pour une réunion, peut-être, ou vous pratiquez quand je vais rencontrer ma copine, je vais lui dire ça, ou j'ai lu ce livre, machin. Mais tout ça, c'est la base de l'inspiration. Et quand on fait la productivité, en fait, la méthode de productivité que nous avons adoptée de la révolution industrielle, ça donne aucun moment de pause. Parce que dans ce système, on croit qu'on doit faire, on doit produire sans arrêt. Et si vous n'êtes pas en train de prouver que vous êtes en train de produire quelque chose, je suis dans une réunion, je produis des emails, je travaille avec une collègue. En fait, on a commencé à croire que si on ne produit pas, c'est une gaspille de temps. Mais en fait, c'est l'opposé. C'est dans ce moment où on ne fait rien, où on se donne la permission de faire le travail mental pour nous inspirer. Et je vous dis, c'est vraiment drôle parce que les gens, ils pensent, le cerveau n'arrête jamais à travailler. Hein. C'est pas que quand vous faites, quand vous allez faire du, quand vous courez ou faites du sport ou quand vous êtes dans le jardin ou quand vous prenez votre douche, ça veut pas dire que vous avez éteint, vous avez éteint le cerveau, il y a rien qui se passe. Donc notre cerveau est toujours en train de réfléchir, mais c'est juste comment est-ce qu'on peut donner de l'espace et du temps pour faire des connexions entre toutes les choses qu'on est en train de consommer.
Ça me donne envie, ça me donne envie. Il faut que j'arrive du coup à mettre maintenant. Je pense que je vais passer, comme vous le suggérez, Raph, à ces 45 minutes et puis au moins déjà me laisser ces petites pauses de 15 minutes, mais même au-delà de ça, avoir ces vrais moments de pause. Et donc vous, concrètement, dans votre vie quotidienne aujourd'hui, vous avez mis en place un certain nombre de règles pour éviter d'être sollicité sur sollicité, par exemple partir en vacances et ne pas répondre à ses mails, faire ces fameuses journées où vous faites pas de rendez-vous. Est-ce que vous pourriez peut-être me donner quelques exemples qui pourront, je suis sûre, aider nos auditeurs?
Oui, bien sûr. La chose qui est la plus importante, en fait, c'est d'avoir une discussion avec vos collaborateurs ou, dans mon cas, mes clients, des attentes. Parce que qu'est-ce que j'ai réalisé, en fait, que des conflits ou des tensions, ça existe quand les deux personnes ou quand la groupe de personnes, quand chacun a des différentes attentes. Donc, si moi, j'ai une attente que vous allez me répondre dans 15 minutes, ça va me stresser si je reçois pas une réponse. Et je vais commencer à vous embêter en disant, est-ce que vous avez reçu mon mail? Est-ce que vous avez reçu mon mail? Mais en fait, le problème, c'est pas vous et c'est pas la technologie, c'est l'attente. Donc, moi, quand je travaille avec mes clients, il y a un document que chaque client signe qui disent, voilà comment je travaille. Je vais vous répondre à vos emails avant la fin de chaque journée. Il y a des journées dans la semaine où je ne suis pas dispo, mais s'il y a une urgence, voici mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler. D'accord. Et là, c'est très simple. Même en équipe, même si vous dites à votre collaborateur, je prends une pause cet après-midi, je vais répondre à vos messages à partir de 16 heures. Et avant ça, s'il y a quelque chose d'urgente, vous m'appelez. Juste ça laisse les gens à... Moi, j'ai jamais eu des problèmes avec ça, hein, parce que c'est une question d'attente, de discussion. Donc, pour moi, je peux faire ça parce que aussi, si je vous dis à vous, écoutez, moi, je prendre cette demi-journée, je suis pas... Disons qu'on travaille sur un projet, j'ai dit, je suis pas disponible de 9h à 13h, mais si je vous demande vraiment votre avis, si vous dites, mais s'il y a un problème, vous pouvez m'appeler. Est-ce que vous serez stressé quand vous envoyez un message? Est-ce que vous serez stressé si on travaille sur un projet et vous savez que si vous avez en besoin de moi, vous pouvez me contacter directement? Donc, qu'est-ce que vous pensez que si on travaille sur un projet ensemble et je vous dis, OK, aujourd'hui, à partir de midi, je suis indispo, je suis pas disponible. Et puis, à partir de 16h, je vais vous répondre à partir de 16h. Mais si vous en avez besoin, vous pouvez m'appeler.
Non, bien sûr que non. Ça, j'ai un cadre, donc c'est simple.
Donc il faut juste créer un cadre qui travaille pour soi-même, parce que je comprends aussi que pas tout le monde peut dire je vais avoir une journée complète sans rendez-vous, ça c'est pas possible. Mais je crois que c'est possible pour tout le monde de trouver même une heure, même deux heures où on peut juste prendre une pause. Et ça peut dire moi je prends mon pause de déjeuner. je laisse mon, ou je prends mon pause de déjeuner, je réponds pas à des mails pendant mon déjeuner. Je vais pas sur Internet, je vais pas sur réseaux sociaux, je prends cette 60 minutes pour asseoir, bien manger, respirer, se calmer. Et puis après, hein, je reviens à 14 heures et puis c'est parti. Donc c'est vraiment cette idée de comment est-ce qu'on peut, et le point de overbooker, c'est pas de dire fais comme moi, c'est de dire chaque personne a une manière de travailler qui est plus compatible avec leur esprit, leurs énergies. Et tout le monde doit commencer à avoir des discussions pour créer des cadres qui va travailler pour eux. Et je raconte toujours cette histoire que si Obama, quand il était le président, si Obama pouvait prendre une heure et demie pour dîner avec sa famille sans avoir des appels, des emails et tout ça, je pense que tout le monde, nous qui sommes en train de faire des choses qui sont pas au même niveau d'intensité de gérer un pays, je pense qu'il y a un email qui peut attendre. Et la question que je demande toujours pour que les gens peuvent se poser, c'est que si on est vraiment honnête, quel est le pourcentage des mails qui sont vraiment urgentes, qui nécessitent une réponse tout de suite, et quel est le pourcentage des mails qui peuvent attendre une heure, deux heures, le lendemain? Donc pour moi, honnêtement, 5% de mes mails sont vraiment urgentes, mais 95% peuvent attendre au moins deux heures pour que je prenne une pause et pour que je fais du sport et pour que je reviens tranquillement. Et s'il y a un souci, ben on a le portable.
C'est un sujet sur lequel je pense qu'on pourrait parler pendant des heures et vous êtes tellement passionné en plus que ça te donne envie de le faire. Mais j'aimerais parler aussi un peu plus de vous quand même, Raph, et notamment ce que j'aime assez avec le gratin, c'est comprendre finalement d'où viennent nos invités. Donc vous êtes, on l'a peu dit finalement, mais chercheuse et puis notamment vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets de la technologie. Mais si on revient en arrière, est-ce que vous pourriez me décrire tout simplement qui était la petite Raph, à quoi ressemblait votre enfance, où est-ce que vous êtes née? Comment était votre enfance, quoi, tout simplement?
Ah, c'est une grande question, ça. Comment a été mon enfance? Je suis née en Syrie, en Damas. Donc, je suis syrienne. Ma famille, on a déménagé au Canada quand j'avais 6 ans, dans les années 1990. Et oui, j'ai passé mon enfance donc au Canada en train de je ne sais pas, d'être très curieuse de tout ce qui était la technologie. J'avais beaucoup la chance, mon père était ingénieur en Syrie, il travaille dans la technologie, donc on avait toujours plein d'outils technologiques dans la maison. Et oui, je ne sais pas comment décrire, j'avais une enfance je ne sais pas, assez normale, je pense. Ouais, j'étais toujours intéressée dans l'écriture, j'étais toujours intéressée dans la créativité, j'étais toujours intéressée dans la technologie. Et j'ai toujours voulu devenir vivre en France, en fait.
Ah oui?
Oui, mes parents, ils rigolent parce que ils racontent une histoire où quand j'avais 7 ans ou 8 ans, je suis venue à la maison un jour et j'ai dit « Papa, je veux que vous me mettez dans le programme d'immersion en français au Canada parce qu'un jour, je vais aller habiter en France. » Et il est dit « Mais d'où vient cette idée? Je ne sais pas où, mais je vous dis que depuis que j'étais très, je dis que peut-être dans une autre vie, j'étais une Française. J'avais toujours voulu revenir, mais c'était toujours une idée. Et donc, j'étais assez concentrée sur cette idée de venir en France. Donc, j'ai fait l'immersion français à l'école, j'ai appris le français à l'école. Et puis, quand j'étais à l'université, j'ai fait une semestre d'échange à HEC. Donc, je suis venue en France en 2006 pour étudier pendant un semestre. Et puis, voilà, mon parcours était un petit peu partout. J'ai habité à Genève, j'ai habité aux États-Unis. J'ai toujours suivi des projets qui étaient intéressants, même si la connexion avec mon parcours professionnel n'était pas toujours claire. Donc, j'ai fait un parcours qui était un peu partout. C'était pas linéaire. C'était vraiment, je faisais plein de choses. Et puis, finalement, je suis venue en France en 2012 en permanence. Et puis, voilà, je suis là depuis 2012.
Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite? C'était quoi votre métier de rêve?
Je voulais toujours écrire, donc écrire des livres, mais aussi pas juste des livres de recherche, mais des histoires, des romans, des mystères, des plein de choses comme ça. Ça s'est toujours été mon rêve, et je voulais toujours voyager et visiter des endroits différents dans le monde. Donc, en fait, j'ai pu réaliser cette rêve avec mes livres j'ai vraiment la chance, quoi, de pouvoir faire mon métier d'enfance.
Vous êtes devenue anthropologue et notamment dans le secteur des technologies, vous nous avez expliqué que ça vous avait intéressé dès la plus tendre enfance. Mais finalement, ces métiers, c'est quand même des métiers qui sont assez rares. Enfin, je veux dire, pas tant de personnes que ça sur Terre qui font ces études-là. Qu'est-ce qui a suscité finalement cette vocation? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancée dans cette voie?
Je m'intéresse beaucoup dans les histoires des gens. Je trouve que les gens sont hyper fascinants, en fait. Et avec la technologie, je me suis rendu compte que les gens, ils partagent beaucoup. Ils partagent leurs pensées intimes, leurs croyances, leurs rêves, leurs peurs, tout ça. Et en fait, je ne sais pas si quand vous étiez petite ou quand vous vous baladez des fois ou vous passez dans une maison où il y a une fenêtre qui est ouverte, vous juste regardez parce que vous êtes curieuse. Et en fait, moi, j'adorais toujours faire ça. Et en fait, l'Internet, c'est comme des fenêtres sans limite, dans plein de petits mondes. Et tout d'un coup, il y a des gens qui parlaient, par exemple, de leurs problèmes en couple, de leurs peurs, de leur enfance, de leurs relations en famille, de leur carrière. Ben, ils partageaient d'une manière où on faisait pas, ils partageaient pas comme ça dans la vie. Et donc, pour moi, ça, c'était la première fois où je me suis dit, ah, mais je peux vraiment mieux comprendre les gens en termes de ce qu'ils partagent. Et quand moi, je commençais à m'intéresser dans ça, c'était au niveau où les blogs ont juste commencé d'être populaires. Donc, d'avoir cette idée où on pouvait, et maintenant, je sais que c'est pas très innovante, mais à l'époque, c'était vraiment un peu choquante, d'avoir la possibilité de tout raconter de notre vie sur Internet pour que les étrangers lisent et comprennent nos vies. Donc, je me rappelle, j'étais en train de lire, par exemple, il y a un blog d'une étudiante au Japon qui avait 15 ans, qui écrivait sur ses expériences. Il y avait une dame qui adoptait des enfants, qui écrivait sur ses expériences de l'adoption aux États-Unis. Il y avait un monsieur qui était en Allemagne, qui était en train de lancer une entreprise. Donc, pour moi, ça, c'était juste, addicted, quoi. J'avais une dépendance sur ça parce que je dis, ben, c'est vraiment cool que les gens partageaient cette partie de leur vie privée avec le monde. Et ça, j'ai commencé à lire beaucoup de blogs, à participer, à m'intégrer dans des communautés en ligne où les gens partageaient, créaient des liens. Et puis, on a commencé à voir que les gens sont en train de créer des communautés. Donc, tout d'un coup, on a une communauté des infirmières qui habitent dans les différents endroits du monde, qui vient ensemble pour partager, pour apprendre, pour soutenir. Donc, pour moi, c'était toujours cette idée de comment est-ce que les technologies nous permettent de collaborer, d'être créatifs, d'écrire des choses, de se présenter. Donc, c'était toujours quelque chose qui je trouvais vraiment fascinante. Et c'est ça qui était vraiment le départ de mon parcours, c'était de regarder comment la technologie nous influence. Donc, quand on a commencé, par exemple, d'avoir les apps de dating comme Tinder et tout ça, de voir, c'est assez bizarre si on prend un recul de dire, je vais voir une photo d'une personne que je connais pas, et je vais décider si je vais le rencontrer ou pas. C'est super bizarre. Il y avait une dame qui était la première de live stream qui était en train de coucher son bébé, c'est ça, comment dire?
Donc
l'idée, ça c'est il y a plusieurs années, mais l'idée de faire un live stream, de partager ce moment intime avec le monde, je voulais comprendre pourquoi.
C'est étonnant.
Donc moi, mon cerveau est toujours en train, j'aime les puzzles, j'aime les défis, donc je veux toujours comprendre pourquoi. Donc j'ai commencé à former des liens avec des gens, j'ai envoyé un mail à cette femme, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on partage, pourquoi est-ce qu'on prend des photos, pourquoi est-ce qu'on utilise les filtres, pourquoi est-ce qu'on travaille sans arrêt, pourquoi est-ce qu'on a des influenceurs. Donc moi, je veux toujours... C'est un peu embêtant peut-être aux gens que je leur demande des questions tout le temps, mais pour moi, c'est vraiment ça. Je veux juste savoir pourquoi. Je veux comprendre comment les communautés, les personnes, ils sont en train de vivre. Comment est-ce que nous, moi, je suis à Mâcon, vous êtes à Paris, mais on est en train d'avoir une discussion. Vous m'avez retrouvée sur Internet. Je trouve ça super cool. Et en plus, pas juste les positifs, mais les négatifs. Pourquoi est-ce que les gens sont en train de se radicaliser? Pourquoi est-ce que les gens sont en train de créer des mensonges? Pourquoi est-ce qu'on est en train d'avoir des mésinformations? Pourquoi? Donc, tout ça, je veux savoir pourquoi.
Est-ce que vous voyez des grandes tendances de changement? Alors là, je vais prendre beaucoup de hauteur, hein, mais au niveau de l'humanité, mais vous êtes anthropologue quand même, liées aux technologies. C'est-à-dire, est-ce que nos comportements humains, selon vous, sont en train d'évoluer à cause de ces 20 dernières années et de tous les changements qu'il y a eu grâce à la technologie?
Oui, je pense que c'est une amplification de tout. En fait, c'est vraiment drôle parce que la technologie est un reflet de nos priorités comme une société. Et c'est un peu choquant aux gens, mais les gens me disent, mais c'est pas vrai, on a les mésinformations, on a ça, on a ça. Mais c'est tout un reflet. Le fait qu'il y a une technologie qui est utilisée veut dire qu'il y a un groupe de personnes qui trouvent une valeur dans cette technologie. Donc, pour moi, je pense qu'on est en train de prendre des tendances et des comportements humains et puis les amplifier. Ça veut dire que tout d'un coup, si nous, on sait dans la psychologie, il y a un biais de croyance. Ça veut dire que si moi, un biais de confirmation. Ça veut dire que si je crois quelque chose et je lis quelque chose qui confirme ce que je crois, ben, c'est une plus haute tendance de dire, ah, ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est sur l'Internet, par exemple, on trouve que des biais de confirmation. On a la possibilité de passer toute une vie, toute une journée sur l'Internet sans jamais rencontrer une idée qui est contre nos croyances à cause des algorithmes.
Donc, oui, Internet pousse la confirmation.
C'est ça, quoi, les confirmations, mais en fait, ça nous donne tout ce qu'on veut. Et le problème, c'est qu'on est en train de créer une réalité qui nous reflète seulement ce qu'on veut et pas la réalité elle-même. Mais ça, cette habitude de chercher la confirmation en croyance, ça c'est pas la technologie qui a créé ça, ça c'est l'être humain qui a créé ça, mais c'est la technologie qui nous permet de faire ça à une scale, à une puissance,
une échelle, ouais.
À une échelle qui est vraiment imprévue. Et c'est ça le problème en fait, c'est pas que ce sont les comportements de l'être humain, ce sont les comportements de l'être humain à l'échelle. Donc, mésinformation, ça existait toujours, mais pas à cette échelle. Biais de confirmation, ça existait toujours, mais pas à cette échelle. Donc, maintenant, on est en train de voir des algorithmes qui peuvent influencer les comportements, les croyances, les idées des millions de personnes à la fois. Donc, ça, c'est ce que je trouve un peu effrayant. Mais c'est une amplification des croyances qui existaient déjà. Et quand nous regardons les politiques, l'intelligence artificielle, les données, les grands réseaux sociaux, tout ce qu'on voit est un reflet des priorités économiques. Donc, si on n'aime pas qu'est-ce qu'on voit, on doit prendre un recul et on doit dire, mais comment est-ce que nous, comme consommateurs, sommes en train de soutenir ces objectifs avec nos attentions, avec nos revenus, avec nos dépensements? Parce que ça, nous, on est en train de co-créer cette réalité avec ces technologies. Donc, on peut pas juste dire « Ah, Google fait ça, Facebook fait ça, Microsoft fait ça ». Ben oui, mais ils font ça en collaboration avec
On est collaborateurs.
C'est ça.
Ouais. C'est, comme vous dites, à la fois effrayant et je trouve ça très intéressant et je vous remercie d'en parler. Je me rappelle une fois une anecdote où j'avais l'habitude de regarder mes réseaux sociaux, mon feed, et puis pour une fois j'ai été un peu par hasard sur celui d'une amie et je me suis rendu compte un peu effrayée et étonnée que finalement les pubs qu'elle avait, son feed était très différent du mien, tout simplement parce qu'en fait elle a pas les mêmes centres d'intérêt. Et en fait c'est ça qu'il faut réaliser, c'est qu'en fait finalement tout l'univers qui nous entoure est fait pour nous plaire à nous en tant qu'individus. Donc, aller dans notre propre biais de confirmation. Du coup, ma question pour vous, c'est quand on a un peu de recul, qu'on écoute ce podcast et qu'on se dit, bon, c'est pas forcément sain toute la journée d'avoir un biais de confirmation permanent sur nos réseaux sociaux par rapport à ce qu'on croit déjà. Comment faire, Raaf, pour réussir justement à se tirer de ce biais de confirmation total? Comment réussir à ouvrir plus le débat et à l'écouter? Parce que c'est ça la question finalement.
Ben, pour moi, la réponse pour tout, honnêtement, c'est d'avoir l'intentionnalité. Ça veut dire d'être très clair des intentions de ce qu'on veut accomplir. Ce qu'on veut accomplir au travail, ce qu'on veut accomplir dans notre consommation informatique. Parce que le problème, c'est que les algorithmes sont créés pour qu'on continue sans arrêt, sans réfléchir. Mais si je prends une pause et je dis « Ok, je regarde mon feed,
Feed.
Ouais, voilà, mon feed sur Instagram. Je vais regarder les choses que je vois, je vais me demander, est-ce qu'il y a des gens sur mon feed avec qui je ne suis pas d'accord? Est-ce qu'il y a des gens qui sont différents que moi, qui ont des différentes vies, perspectives, opinions, background, tout ça? Est-ce qu'il y a des choses que me font sentir éduquée? Est-ce que je suis en train d'apprendre des choses? Parce qu'en fait, on peut faire ce que j'appelle ça s'appelle le pipelining en anglais. Ça veut dire que nous, on peut stratégiquement regarder notre feed et commencer avec intention d'inclure des choses pour qu'on a une plus grande richesse des informations.
Parce plus que, d'ouverture.
Plus, exactement. Mais ça, on doit choisir de le faire. Ça, on peut pas dépendre sur l'algorithme de nous présenter cette variété parce que l'algorithme n'était pas fait pour ça. Donc, c'est nous qui doivent quelques jours, chaque mois, sortir de notre bulle d'algorithme et aller chercher des autres perspectives. Et ça, je pense, c'est quelque chose que les gens ne font pas. Ils ne réfléchissent pas trop de leur consommation. Ils vont sur les 5 mêmes sites, ils regardent le feed avec leur même feed, les mêmes amis sur Facebook, les mêmes discussions sur WhatsApp, sans jamais aller chercher des choses. Donc moi, à Sciences Po, j'enseigne une cours qui s'appelle l'innovation et les modèles de business émergentes. Et une des choses que j'enseigne, que le feed, que votre consommation informatique, l'information que vous êtes en train de consommer est quelque chose qui peut être géré stratégiquement. Ça veut dire qu'on doit le gérer nous-mêmes. Et ça veut dire on regarde de la totalité de qu'est-ce qu'on consomme et on regarde est-ce que je consomme juste une type. Par exemple, pour mes étudiants, je leur dise vous pouvez pas juste faire la recherche sur les articles à court terme ou les blog posts de 3-4 paragraphes. Vous devez lire des livres, vous devez regarder des documentaires, vous devez aller dans les communautés, vous devez chercher des autres sources d'informations. Et c'est comme on mange pas juste des gâteaux tout le temps. On essaie, on doit essayer de manger un peu des légumes, des variétés pour avoir un régime un peu équilibré. Mais les gens, des fois, quand ils consomment les informations, c'est comme ils consomment que
des carottes.
C'est ça. Mais même que des gâteaux, que du sucre, que des contenus qui sont pas vraiment faits pour l'alimentation mentale.
Saine.
Donc pour ça, et c'est la même chose avec le travail. Même avec le travail, on doit prendre un recul, on doit dire intentionality. Aidez-moi.
Intentionnalité.
Intentionnalité.
Mais c'est
oh, c'est tellement dur ce mot. Je vais pas essayer. Mais est-ce que j'ai, je vais redire ça. Est-ce que quand je regarde mon agenda, est-ce que j'ai une stratégie en place?
Ouais,
est-ce
ouais.
que je dis aujourd'hui, c'est ça qu'est-ce que je vais accomplir? Je veux créer de temps pour réfléchir. Je vais créer de temps pour prendre une pause et je vais faire ça avec une intention. C'est ça que je vais pas dire l'autre mot. Et sinon, donc c'est vraiment cette idée que c'est nous qui sommes en contrôle. On doit contrôler notre temps, notre énergie, notre agenda, notre réseau social. Parce que si on fait ça, la technologie est incroyable. C'est effrayant des fois, mais c'est aussi incroyable. Ça peut nous aider à faire des connexions, à apprendre des choses, à poursuivre des buts professionnels et personnels. Mais c'est vraiment une ressource qui est tellement riche, qui peut nous aider à améliorer nos vies. Mais si on l'utilise comme il faut, si on réfléchisse pas, qu'est-ce qu'on fait? Si on réfléchisse pas, ça veut dire qu'on laisse quelqu'un d'autre, le collègue qui va prendre le rendez-vous, l'algorithme qui va décider. Donc, vous laissez des autres personnes ou les autres outils technologiques décider pour vous comment vous allez gérer votre journée. Donc, au final, je vous demande, c'est qui gère votre attention, votre énergie et votre temps? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la technologie, les emails, les notifications qui vous interrompent ou votre collègue qui sont en train de choisir n'importe quand et n'importe où les rendez-vous?
Eh bien, je pense qu'on doit tous se poser la question parce que malheureusement, la réalité, c'est que si on prend du recul, à mon avis, on a tous une part beaucoup plus importante qu'on aimerait l'admettre d'autres personnes qui choisissent à notre place.
C'est ça.
C'est évident. C'est évident, ça fait réfléchir en tout cas. Raph, pour terminer l'interview, j'aime assez poser des questions un peu personnelles que j'appelle le crible du gratin. C'est d'autres questions, alors pas sur votre enfance, vous verrez, mais ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue. La première, c'est est-ce que vous avez vécu un grand échec, un grand moment difficile ou de doute, et surtout les enseignements que vous en avez tirés?
Bah oui, toujours. Il y avait un moment où quand j'avais écrit Overbooké, où il y avait plein d'éditeurs qui disaient non, on pense pas que c'est important, on pense pas que les gens vont identifier avec cette idée d'être overbooké. Donc, on s'imagine, après faisant 2-3 ans de recherche, que moi je crois dans cette idée, qu'il y a plein de gens qui disent non, c'est pas importante. Donc ça, c'était un peu dur parce que il y a toujours un moment où je me suis dit, mais est-ce que moi je suis complètement trompée de cette idée? Et finalement, j'ai appris qu'on doit poursuivre, que c'est pas aux autres gens de décider qu'est-ce qui est une bonne idée ou pas. Et ça, j'ai aussi réalisé que il y avait du temps où avant, j'essaie de pas le faire maintenant, où j'attendais d'être donné la permission des autres.
Une validation.
Ouais. C'est ça, que je voulais que quelqu'un d'autre disait c'est une bonne idée, ou quelqu'un d'autre me dire oui, on veut faire ça. Et finalement, je dis, mais si moi, je suis pas capable de dire, moi, je pense que c'est une bonne idée et moi, je vais les poursuivre, comment est-ce que je peux, dépendre sur l'idée que quelqu'un d'autre va croire dans mes idées si moi, je crois pas dans mes idées? Donc, j'ai arrêté chaque fois que je rencontre quelqu'un qui dit non ou qui n'est pas d'accord aussi. J'ai dit OK. Mais ça me blesse pas comme avant. Avant, j'étais vraiment dans un état déprimé en disant, mais mon idée est terrible. Il va personne. Je vais jamais réussir. Mais en fait, c'était est-ce que moi, je crois? Est-ce que moi, je suis en contrôle? Est-ce que moi, je décide que moi, cette idée vaut la peine d'essayer de le poursuivre? Et ça, c'était une des leçons qui était les plus valables dans ma vie, c'est de me donner la permission. Qu'on n'attend pas pour les gens ouvrent la porte pour vous, mais que moi qui décide que je vais rentrer dans cette salle et c'est moi qui vais ouvrir la porte et moi je vais rentrer.
J'adore. Une autre question pour vous, c'est est-ce que s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment?
Honnêtement, rien. Je crois que tout le parcours, même les moments difficiles, même les décisions que j'aurais pu faire différemment, que j'aurais pas arrivé à ce point ici. Et je suis assez contente. Encore beaucoup de travail à faire, mais je suis assez contente d'être ici. Donc, je crois pas trop dans cette idée de regretter, de refaire les choses. Je pense que ça nous informe la complexité de notre esprit, en fait. Donc, je referai rien.
C'est vrai. Encore une question, est-ce qu'il y a une maxime, un proverbe, une citation qui vous plaît particulièrement et que vous pourriez partager avec nous?
Ok, ça c'est un peu bizarre, mais je vais le partager.
Je vous remercie.
François le premier, le roi, François le premier, il avait son...
Une maxime, ouais.
Et c'est en latin, et c'est nutrisco et extinguo. Ça veut dire... Je nourris et je extinguish, je extends.
J'éteins.
Et ça veut dire plusieurs définitions. J'adore toutes les définitions. Premièrement, son créature était la salamandre, c'est ça? Le salamandre.
Ouais.
Et ça veut dire, je mange le feu et je respire le feu. Donc, d'avoir assez une passion. Donc, nutrisco. Je mange le feu, extinguo, j'expire le feu, et ça veut dire de juste pouvoir être forte pour naviguer la vie. Mais aussi, ça veut dire que je nourris tout ce qui est bien et que je éteins tout ce qui est mal. Donc, je prends tout ce qui est du bonheur
positif
et j'expire tout ce qui est négatif. Et quand j'étais en Chambord, le château de Chambord, là, j'ai trouvé ça tellement simple, mais avec assez de puissance. J'adorais cette idée de respirer le feu et de juste, ça veut dire que malgré ce qui arrive, on est toujours là, on a cette force de soi où je respire du feu et j'éteins le feu dans les autres. Donc, j'ai trouvé ça assez cool. Mais aussi cette idée que je nourris tout ce qui est bien. Et ça veut dire que j'aimais mon concentration, à mon focus, en essayant de amplifier le bonheur et que j'essaie de vraiment réduire les négatifs. Donc ça, c'est une maxime. J'ai fait un strip sur une petite bague que je porte parfois parce que je trouvais ça juste une philosophie de vie qui était super.
Ben, je vous remercie pour le partage parce que je connaissais pas cette citation de François Ier et je m'endormirai un petit peu plus cultivée ce soir. Je vous remercie. Ma dernière question, c'est une question qui, je pense, vous plaira parce que je suis littéraire comme vous et j'aime beaucoup lire. À part vos propres livres, bien sûr, est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué, qui a impacté votre parcours, votre vie, votre philosophie, votre réflexion et que vous pourriez partager avec nous?
Il y a deux que je trouve sont vraiment importantes. La première, c'est un livre en anglais des années 80 qui s'appelle The Artist's Way.
D'accord.
Donc, le chemin de l'artiste. Et en fait, c'est un programme qu'on fait très simple, c'est pas dur, c'est par une écrivain qui s'appelle Julia Cameron. Et c'est un programme de 3 mois où chaque semaine, elle vous demande une question sur votre créativité, en fait. Et vous répondez à ces questions. Il y a plein de choses, de petites activités à faire. Et ça m'a aidé à commencer à avoir des idées pour overbooker, en fait, parce que ça vous demande où est-ce que vous avez eu votre identité créative, comment est-ce que vous gérez quand vous êtes jalouse du succès créatif d'un autre. Mais c'est plein de questions et ça vous aide à vous mieux connaître, parce qu'on passe tellement de temps en train de lire, consommer des choses, on se demande pas assez de questions pour se connaître, pour mieux connaître. Donc c'est un livre que je trouve était super importante. Et l'autre, c'est ça que j'ai sur mon bureau, c'est un livre qui s'appelle The Body Keeps the Score, et c'est un livre sur le traumatisme, en fait. Et j'ai trouvé ça, ce livre, très important parce qu'en fait, j'ai commencé à le lire il y a quelques mois quand j'ai entendu les psychologues en train de dire nous avons
un
traumatisme collectif à cause du pandémique, à cause du COVID. Je me suis dit, mais c'est quoi un traumatisme collectif? C'est quoi le traumatisme? C'est quoi ça? Et je pense que tout le monde doit le lire parce que ça parle de comment des événements traumatiques, comme une pandémie, comme une perte d'un travail, comme la mort d'un parent, comment ça nous impacte au niveau du corps. Pas juste le cerveau, mais comment ça impacte au niveau du corps et comment on doit gérer ça. Et honnêtement, je crois assez fortement qu'on était toutes traumatisées cette année, on a déjà vu qu'en France, il y a 1 sur 2 travailleurs françaises qui ont un épisode d'angoisse assez profond. Et je pense qu'on doit tous apprendre de comment gérer les traumatismes et qu'est-ce que ça fait à notre corps, parce que on a tous besoin de
les surmonter.
Ouais, c'est ça, exactement.
Raph, merci pour tous ces mots, merci pour ces conseils. J'ai plein de lectures, j'ai des citations, j'ai noté énormément de choses. Là, vous voyez pas, mais j'ai plein de choses. C'était passionnant. Pour terminer, peut-être la dernière question, si on veut vous retrouver, si on veut vous contacter, si on veut vous suivre, si on veut peut-être aussi faire appel à vos services de conseil, où est-ce qu'on peut le faire?
Ben, vous pouvez me retrouver à rafharfouche.com ou sur les réseaux sociaux, mais je vous prévois que je vais pas répondre à votre mail ou message tout de suite.
Vous mettez le cadre,
mais je vais
c'est bien.
Je vais toujours répondre, mais juste pas tout de suite. Donc, avec plaisir de continuer les discussions. Si vous avez des questions ou avez des commentaires, je suis toujours super intéressée des avis des personnes. Donc, n'hésitez pas de connecter avec moi ou de me contacter.
Merci beaucoup, Raph. C'était vraiment passionnant. Je vous dis à bientôt.
Merci à vous. Merci, Pauline.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du-6-gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaie d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont mes 2 réseaux sociaux de prédilection. Donc, sous le pseudo Pauline Léniaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui, aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah, c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.